Bon, t'as la voiture et tout derrière. Ah ouais. C'est
vraiment sûr.
Bon bah venez, on va à l'hôtel de Guine du coup. Il nous rejoint. Bah vous savez quoi, on joue au Among Us. Je l'ai moi aussi.
Vas-y, on fait quoi?
Non mais attends, venez, il veut qu'on le prenne maintenant.
Venez, on joue à Among Us. On fait comme si on savait pas où c'était l'hôtel de Guine.
Non mais en fait attends, il m'a appelé,
Attends, c'est
qui le chien de
Guine? J'en sais
rien. C'est comme
si? Non, non.
Au sommaire cette semaine de notre émission Atelier, c'est notre Radiolab qui se déroule le samedi de 14h à 16h qui est à l'honneur. Thaïs, Adèle, Charlie, Vivien et Lou ont réalisé un reportage sur la Biennale de création contemporaine intitulée Appel d'air, organisé par des commissaires de l'Art de Musée, association du Master Expographie Muséographie de l'Université d'Artois. Cet événement qui s'est déroulé du 16 au 18 octobre mettait en lumière pour cette quatrième édition des artistes par leurs pratiques photographiques, sculpturales ou par le biais d'installations et de performances diverses, poétiques, œuvres sonores ou encore numériques. Trois de nos jeunes radioteurs, Thaïs, Adèle et Lou, seront en compagnie de Maud Dubuis et de Nicolas Germain, alias le duo Y, pour une captation sonore et un entretien autour du projet de concert vidéo à base de microscopes et de synthétiseurs modulaires à l'hôtel de Guine. Vivien, quant à lui, est allé à la rencontre d'une étudiante qui proposait une installation sonore et visuelle en extérieur. Mais tout de suite, on vous propose une interview réalisée par Charlie qui a rencontré une autre étudiante pour nous parler de son exposition intitulée « Rustique ».
Camille Fromager, je suis étudiante au master Expographie Muséographie. Donc c'est un master qui a pour but de former au métier des musées, qui se trouve à Arras. Et dans le cadre de ce master-là, donc, nous devons réaliser des projets de fin d'études, c'est des sortes de mémoires en fin de master. Et donc nous, comme on est dans une formation qui nous prépare à réaliser des expositions, et ben nos travaux de fin d'études, ce sont des expositions.
Quel est le sujet de l'exposition?
Alors moi, j'ai choisi de travailler sur les races d'animaux domestiques locales. Donc mon exposition, elle s'appelle Rustique avec un S, parce que c'est un sujet qui m'intéressait pour plusieurs aspects. Parce que en fait, les races sont très liées au territoire, à la culture et également à l'histoire des hommes. C'est pour ça que j'ai appelé mon expo Rustique. C'est parce que c'est un des principales caractéristiques des races locales, c'est qu'elle est rustique, donc ça veut dire qu'elle est adaptée au territoire sur lequel elle vit. C'était la première raison pour laquelle j'ai travaillé sur le sujet des races. Et l'autre raison, c'était qu'en fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc on a toutes ces races locales qui disparaissent suite aux nouvelles formes d'agriculture qui privilégient un standard, une race, pour automatiser les chaînes de production, etc. Donc on a toutes ces races, toutes ces variétés qui ont des couleurs, des formes, etc. différentes, qui disparaissent. Et en fait, il faut savoir que ces animaux, c'est une réserve génétique. Au même titre que les semences pour les végétaux, c'est une réserve génétique pour l'avenir, parce qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir besoin d'avoir des animaux qui sont adaptés au territoire sur lesquels on vivra plus tard, au climat, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi, c'est pour pas perdre les activités des hommes qui sont associés.
On voit que vous avez fait des chevalets expliquant différentes races d'animaux et aussi d'autres choses. Comment les avez-vous fait?
Alors, donc moi, pour construire mon exposition, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. En fait, il y a 8 personnes qui m'ont aidé à fabriquer cette exposition. La première, c'est Jean-Yves Henri, qui est en fait technicien au musée de Bretagne. Parce qu'en fait, étant étudiante au master expographie-muséographie, je suis en apprentissage au musée de Bretagne, qui est à Rennes. Et donc le technicien du musée de Bretagne m'a aidé à fabriquer les tréteaux. Donc c'est une première chose. Après, j'ai fait appel à ma famille. Donc j'ai travaillé avec mon père. On a travaillé ensemble pour faire tous les dispositifs ludiques. Donc je voulais qu'il y ait beaucoup d'interactivité pour que ce soit un peu plus sympa et intéressant pour le visiteur. Donc il y a un jeu par exemple de puzzle dans lequel il faut retrouver quelles sont les trois vaches qui sont de la même race. Donc là il y a la Bretonne Pinoire. Et en fait il faut savoir que la Bretonne Pinoire, elle a des variantes parce qu'au sein même de chaque race, on a des couleurs différentes. Donc on a la Bretonne Pie-Rouge qui a disparu depuis les années 50 suite à des politiques agricoles qui visaient à réduire, à lisser les cheptels et à supprimer l'insémination artificielle pour des taureaux qui étaient condamnés. Donc on a la Pie-Rouge et la Glazigue. En fait, c'est une Bretonne aussi, c'est juste qu'elle est bleuée un peu plus. Tu vois, elle n'a pas tout à fait la même couleur. Elle est un peu plus grise que la Bretonne Pie-Noire. Donc voilà, c'était pour expliquer qu'au sein même de chaque race, on a des couleurs différentes. Et qu'elles disparaissent également parce que les éleveurs privilégient un standard plutôt qu'un autre.
Donc oui, effectivement, les vaches produisent aussi du lait qui permettront de faire des fromages, il paraît.
Ouais.
Donc là, on a un chevalet avec une animation, avec plusieurs types de fromages.
Ouais. Alors en fait, ce panneau, il faut savoir que j'ai construit mon exposition pour qu'elle parle aux consommateurs, petits et grands. Et là, c'était clairement pour faire un lien entre les races locales et les appellations d'origine. Donc c'est tout ce qui est AOP, AOC, IGP, etc. dont on connaît parfois mal les cahiers des charges. Qu'est-ce que ça veut dire exactement une appellation d'origine contrôlée, une appellation d'origine protégée, etc. Du coup, j'ai fait des petits volets quand on soulève un fromage. Donc par exemple, là, on a l'image d'un roquefort avec écrit AOP. Et quand on soulève le volet, on a en dessous le volet une petite définition de l'appellation d'origine protégée. Et on a aussi un lien avec les races locales. Pourquoi le roquefort en particulier est lié à une race? Donc en fait, il faut savoir que le roquefort, enfin dans le cahier des charges de l'AOP du roquefort, il est clairement stipulé qu'il doit être réalisé uniquement avec du lait provenant de la race Lacone, qui est une race de brebis, qui est située dans l'Aveyron. Voilà, et donc après j'ai décliné ça sur différents fromages jusqu'au label rouge par exemple.
Ici on voit aussi une carte de France avec plusieurs départements. Pourquoi y a-t-il une carte de France pour montrer où sont les races en France ou...
En fait, c'est super intéressant ta question parce que c'est cette carte de France que tu vois là, c'est celle qui est sur le frigo de mes parents depuis que je suis toute petite. Parce que est-ce que tu as déjà vu une carte de France terminée comme ça en stickers? Moi, je suis très contente de l'avoir, d'avoir réussi à collecter toutes les régions. Et en fait, c'est la base de ma réflexion parce que je me suis rendu compte en regardant les cartes de France qu'il y avait énormément de produits ou d'images qui étaient liés aux races locales. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est tout l'aspect culturel qu'on a derrière ces animaux. Parce que en fait, il y a beaucoup de régions qui se servent des animaux, des produits dérivés de ces animaux, ou alors des activités humaines, pour valoriser leur région et pour se rendre attractif. Et je pense que c'est vraiment intéressant les races locales parce que ça peut être un levier pour demain, pour des régions qui sont désertées, pour pouvoir se rendre un peu plus attractif pour des visiteurs extérieurs.
Et donc là aussi, on voit sur un autre chevalet, on parle sûrement des éleveurs et des éleveuses d'animaux domestiques. Donc tout a un lien finalement.
Ouais, tout à fait. Et je souhaitais qu'il y ait vraiment une présence humaine et que mon discours soit un peu incarné. Donc j'ai choisi de laisser la parole à deux éleveurs. Donc la première, c'est une éleveuse qui s'appelle Stéphanie Maubé. Elle fait des agneaux de pré salé en fait, on appelle ça comme ça, dans la Manche. Et en fait, c'est super parce que j'ai nommé son petit discours portrait de troupeau Elle décrit un peu son troupeau avec humour et poésie, et je trouvais ça intéressant parce que ils ont tous un nom et ils ont tous une personnalité, et aujourd'hui c'est plus vraiment le cas dans l'élevage intensif, donc c'était vraiment pour faire un clin d'œil à l'élevage extensif qui est un modèle extrêmement vertueux pour l'élevage de demain. Et à côté on a qui est un pâtre, c'est ceux qui gardent les vaches quand elles montent pâturer en été dans les montagnes. Et en fait, lui, c'est un peu, pas un coup de gueule, mais voilà, il a envie de responsabiliser les consommateurs en leur disant que acheter, manger, c'est aussi philosopher et c'est aussi résister. Parce qu'en fait, quand on mange, on fait des choix. Et ces choix, ils veulent dire des choses et ils ont un impact direct sur des personnes. Et là, notamment sur des éleveurs. Voilà.
Donc c'est un impact environnemental.
Tout à fait, ouais. Et social aussi. Parce qu'en fait, en achetant, par exemple, la viande ou le fromage qui sont produits de ces élevages extensifs, on appelle ça à l'inverse des élevages intensifs, on participe au maintien de cette agriculture. Et aussi, on participe à la pérennité de ces élevages qui, parfois, ne sont pas forcément très, très solides. Donc, c'est vraiment un acte citoyen et engagé de manger.
Une dernière remarque.
Merci à vous d'être venu m'interviewer et vous intéresser à ce travail. Et puis, j'espère qu'à travers cette exposition, ça fasse un peu connaître ce sujet des races locales qui me tient à cœur et qui est très important pour la promotion de la ruralité et pour les personnes et les éleveurs qui élèvent ces animaux.
On retrouve à présent Vivien qui s'est rendu sur une installation extérieure réalisée par une autre étudiante en collaboration avec des personnes de centres sociaux d'Arras.
Tout le monde connaît l'arbre à papillons, un buisson au port échevelé, au feuillage pruneux, cireux et gras, d'un gris de plomb presque argenté, aux longs épis mauves attirant les vanesses de juin à septembre. Moins d'un siècle après son introduction en Europe à titre de plante de collection, puis de jardin, le buddleia, échappé des enclos, a gagné les terres inoccupées, plus spécialement les friches urbaines. C'est une véritable ruderale, plante de décombre, capable de croître entre deux gravats, à même les cailloux, en haut d'une corniche, entre les rails des chemins de fer, pourtant sévèrement traités, où aucune autre espèce ne s'aventure. Rare plante ligneuse, avec le bouleau, à coloniser un terrain nu, sans attendre la formation d'un humus, ou, pour le moins, d'un sol au sens pédologique du terme. On peut voir émerger un buddleia d'une fissure de l'asphalte, d'un rodent du bâti à 10 mètres de haut, sans autre nourriture que l'eau du ciel, les poussières organiques de la ville et le bon CO2. Il adore la pollution. C'est un bio-indicateur de l'atmosphère irrespirable. Le buddleia et les maladies respiratoires sont liés dans un rapport inverse d'agrément pour l'homme. Une plante de ville. Sans doute est-ce pour cette raison que la vindicte des écologistes s'en détourne. La ville n'étant pas la nature, tout ce qui s'y plaît n'étant pas naturel, une telle espèce ne peut rivaliser d'intérêt avec les séries floristiques des milieux sauvages. Peut-être même ne s'agit-il pas d'une plante, tout au plus une prolifération malsaine du béton, avec l'avantage imprévu, il est vrai, mais bien utile, monsieur le maire, de dissimuler les déchets jetés par-dessus la clôture du chantier et surtout, comment peut-on de nos jours, la niche des SDF, un matelas tassé sous un plastique accroché aux branches pour faire le toit. Omniprésent dans la friche, première plante à venir avant les herbes, les jeunes sycomores et les élantes, présents dans toutes les villes d'Europe et toujours dans les mêmes conditions, celle d'un chantier temporaire souvent clos d'une palissade, le buddleia caractérise le délaissé urbain, territoire en instance de devenir quelque chose, mais qui, en attendant, fait un champ d'arbres à papillons. C'est déjà ça. Extrait d'Éloge des vagabondes de Gilles Clément.
Nous sommes à l'œuvre Avantis, présentée par Roxane Marquand et Marie Vandeval, du collectif Totum, dans le cadre de la manifestation pour sa 4e édition d'Appel d'air. Donc Roxane, tu peux nous présenter Avantis ?
Adventis. Oui, bien sûr. Alors, c'est une installation textile et sonore qu'on a réalisée pour la Biennale Appel d'air. C'est la première installation qu'on réalise ensemble. Le collectif Totum, en fait, est né pour la Biennale Appel d'air. Je vais t'emmener. En fait, on est dans une sorte de grande friche collée au lycée Baudimont. On a choisi cet espace parce qu'en fait, notre œuvre parle de résilience. Et on voulait parler de résilience à la fois humaine et résilience écologique. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est la résilience.
Si, parfaitement.
Je l'explique quand même. Oui. En fait, c'est le fait de se reconstruire après un événement traumatique. Donc, on l'emploie pour la nature. Par exemple, dans le cas de Hiroshima ou quelque chose qui a été hyper violent comme ça, le fait que la nature repousse, on parle de résilience. Et pour l'humain, bah, c'est quand il y a eu, pareil, quelque chose de très difficile, le fait de réussir à se reconstruire, mais en étant quelqu'un d'un peu différent après, en fait, en s'adaptant à tout ce qui s'est passé. Et donc nous, on a choisi d'exposer dans cette friche, qui est donc un endroit où il y a eu des bâtiments détruits, mais où en fait on est entouré d'arbres à papillons, pour parler voilà, de cette nature qui reprend ses droits et du fait que la vie pousse toujours, quoi qu'il arrive. Donc ici...
Je vais rajouter qu'on est dans la rue, l'allée du Bon Pasteur.
Oui, voilà.
Donc nous sommes aussi situés à l'allée du Bon Pasteur, près de PFM d'ailleurs, dans le quartier Méolens.
Alors, donc là, on arrive dans l'installation. Donc c'est une sorte de... Je te la décris ?
Bah oui.
C'est une sorte de grand cocon blanc de tissu qu'on a suspendu. Le tissu, on voit des plantes, des traces de plantes. En fait, c'est un atelier martelage qu'on a fait avec des femmes du centre social quartier Ouest à Arras. Donc en fait, c'est une technique qu'on appelle le tataki zomé. Ça consiste à utiliser des plantes et à les marteler sur le tissu, avec un marteau en fait. Et les tanins qui sont présents dans la plante viennent s'incruster dans le tissu et du coup ça crée des sortes d'empreintes comme ça. Et donc pour ces plantes, on les a cueillies avec les femmes du centre, tout autour du centre. Donc c'était l'idée en faisant la cueillette avec elles, de nommer ces plantes qu'on croise tout le temps, qui sont des plantes hyper banales en fait, auxquelles on ne fait pas vraiment attention, de savoir les nommer, de savoir les reconnaître, de savoir leur donner de l'importance. Et c'est elles qu'on a voulu imprimer sur le tissu, et voilà, pour qu'on les voit en fait, pour les faire exister. Et donc, il y a ces plantes, mais dans l'installation, il y a aussi des téléphones qui sont suspendus, des téléphones blancs. Il y en a 5. Et dans chaque téléphone, il y a une piste différente. Il y a des sons... Alors, il y a deux enregistrements de personnes qui ont monté l'association Vie Libre à Arras. Donc, c'est une association qui aide les personnes en situation d'addiction, notamment à l'alcool. Et ces personnes, Marc et Mathilde, sont aussi des personnes qui ont eu par le passé des problèmes d'alcool et qui s'en sont sortis. Donc en fait, ils sont vraiment résilients et ils nous racontent leur parcours. Donc dans deux des téléphones, on peut écouter ça. On peut écouter un micro-trottoir qu'on a fait avec Marie sur la place des Héros, où on a rencontré les habitants. On leur a demandé leur rapport aux mauvaises herbes, en fait, et c'était très drôle. Enfin, c'est beaucoup plus léger. On a eu plein de réponses très différentes, des gens qui adorent les adventices, d'autres qui trouvent qu'on devrait toutes les éradiquer. d'autres qui aiment les fumées. Enfin, c'est vrai, c'est très drôle.
Bah, chacun son point de vue, hein. on ne juge pas.
Bah oui, voilà. Et donc, voilà, y a, en fait, cette œuvre, c'est vraiment un cocon dans lequel on peut venir se poser pour écouter, à la fois observer les plantes, écouter les gens et voilà, juste se poser, en fait. C'est vraiment un espace d'écoute et de je sais pas, d'observation.
Ça ne me gêne pas trop d'en voir un petit peu. Je trouve qu'il y en a des belles, quelquefois il y a des fleurs. Non, j'aime bien des fois.
Pissenlit, plantain, aquilée, senson, plein. Des trucs qu'on passe à côté mais qu'on remarque pas forcément, quoi.
Les pissenlits, des choses comme ça. Enfin, j'avoue que là, en matière d'herbe, je suis pas très très...
À part le pissenlit. Mais non, c'est tout.
Je peux pas vous dire là maintenant tout de suite. J'ai mon train à prendre.
Le chien dent, il y a tout ça qui...
Après, une mauvaise herbe, c'est dans ton jardin, là, que ton père, il enlève tout le temps, c'est tout.
Déjà, j'aimerais qu'on change le mot. J'aimerais qu'on les appelle plus des mauvaises herbes.
Les mauvaises herbes, ça n'existe pas, les mauvaises herbes. Déjà, pour commencer.
Bah, c'est une feuille toute pétée. Une mauvaise herbe, quoi. C'est... La terre, ça, c'est... ça, là-bas, c'est une mauvaise herbe.
Mauvais terme, il n'y a pas de mauvaise herbe. Il n'y a que des herbes spontanées pour nous.
Pénible, j'ai un jardin, c'est pénible. Les mauvaises herbes, j'en ai marre.
Mais a réussi à pousser entre les... Bon, bah c'est tout.
Après, on dit toujours les mauvais insectes, les mauvaises herbes, les machins. Bah, je suis désolé, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde.
Après, je m'occupe pas de ça.
Ah, moi, c'est mes herbes préférées.
Ben moi, elles me gênent pas. Déjà, d'une.
Après, moi, les mauvaises herbes, je les fume, t'as capté. C'est ça ou pas, c'est ça ou pas, frère?
Non, mais c'est vrai que les mauvaises herbes, hélas, faut faire avec. Hein. C'est vrai. Sinon, si vous avez des bons remèdes contre les mauvaises herbes, allez-y, dites-moi, parce que moi, je suis perdu, ça, complètement perdu.
Pour les détruire, je sais pas, il faut utiliser quelque chose de naturel, je sais pas, moi, là. Le feu, par exemple, je sais pas si...
Heureusement qu'ils ont changé les pavés, parce qu'il y en avait avant, mais maintenant, il y en a plus tant que ça, je crois.
Les mauvaises herbes, les éradiquer. Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais mauvaises herbes, ouais, non, je...
Ben, je sais que... Là, je vis encore chez mes parents, et je sais que à chaque fois, mon père nous demande, avec mon frère, d'enlever les pissenlits, par exemple. Et à chaque fois, ça me fend le cœur, parce que j'adore les pissenlits. Je comprends pourquoi on veut les enlever, mais j'adore ça, moi.
Pour moi, ça n'a pas son importance, les mauvaises herbes. Mais je voudrais bien voir plus de verdure quand même dans... Hélas, ça, c'est un fantasme de ma part, quoi. Parce qu'on va se retrouver sur du bitume tout autour.
Ah bah là, c'est quand même plus propre, c'est plus intéressant.
Non. Non, on les voit pas assez. On les voit passer partout.
Je me dis, ça serait super génial si on était complètement envahis de plantes.
Hein, j'aime bien, là, j'aime bien, l'instant. Franchement.
Oui, c'est...
J'aime bien observer un petit peu le ciel.
Oui, c'est ça. On voit la ville, en fait, ouais. À travers les plantes. De jouer sur la transparence du tissu et de faire exister les plantes dans la ville, quoi.
Donc, je me disais, peut-être, comment ça a été l'organisation de la manifestation, aussi, du coup, de la mise en place de l'œuvre avec la crise sanitaire.
Bah, ça nous a beaucoup retardé, puisque normalement l'événement devait avoir lieu en avril de cette année, et puis finalement, tu vois, on est au mois d'octobre, donc c'est un an plus tard, parce qu'la première fois qu'on est venu, c'était en octobre l'année dernière, tu vois. Et bon, on est quand même trop contente de pouvoir monter cette installation. En plus, on se dit que le week-end prochain, ça aurait peut-être été vraiment trop tard. Donc on est un peu genre, on passe limite, mais ça va. Et après, bah, on fait attention, on a des masques, les téléphones sont désinfectés à chaque fois que quelqu'un vient écouter, vient toucher le téléphone. Donc en fait, on arrive à gérer le truc. Et puis on a la chance de faire une manifestation qui est en plein air, en fait. Ouais, donc c'est aussi beaucoup plus simple à gérer que quand tu es dans un espace confiné. Voilà.
C'est une ancienne partie du lycée Baudoum.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ils ont détruit. Et parce que je crois que le bâtiment était en mauvais état.
Oui, en fait, c'était le lycée hôtelier qui était là.
Oui.
Et qui, en fait, ils ont installé un autre truc vraiment sur le site du lycée. En fait, j'y étais. Ouais, ils ont le lycée hôtelier juste collé au lycée général. Mmh. Et on peut plus rien, il y a juste au-dessus là, il y a Saint-Charles. S'il y a Saint-Charles au-dessus, c'est le lycée technologique.
D'accord.
On termine avec une rencontre en compagnie de Maud Dubuis et de Nicolas Germain, alias le duo Y, réalisé par Thaïs, Adèle et Lou. Les deux artistes étaient en pleine répétition de leur performance scénique pour un concert visuel et sonore.
Le microscope, là j'ai l'image ici qui arrive là, et en fait je sais combien il y a de rouge, de bleu et de vert dans l'image. Donc là on voit quand elle bouge la main, ça fait toutes ces variations ici que je récupère dans le synthétiseur ici, et après que je connecte soit un filtre, soit enfin à quelque chose qui va modifier le son. Voilà, par exemple, si je mets ça, là. Vous entendez, par exemple, plus elle met de bleu, plus le son est aigu.
Vous récupérez en fait les couleurs.
Oui.
Dans un logiciel qui va les transformer en son.
Voilà. Il ne les transforme pas encore en son. Et c'est juste des données qui sortent de l'ordinateur et que je récupère ici. On peut les voir ici par exemple. Là. Voilà, fais bouger un peu le. Voilà. On voit que ça arrive ici. Et après, ici, moi j'ai la sortie de ça que je peux brancher à n'importe quel paramètre du synthétiseur. Voilà.
Donc en fait, moi je fais que de l'enquiquiner. C'est jamais. Enfin, ça dépend ce que je mets devant ma caméra.
Alors après, moi aussi, je peux envoyer du son là-bas. Par exemple, je vais mettre ça à la basse là. Donc là, j'ai un son très grave qui sort ici. Et avec la table de mixage, je peux l'envoyer sur le petit haut-parleur qu'elle a. Ça va faire vibrer le sel qui est dans le haut-parleur.
D'accord.
Et donc ça fait des petites formes qui se créent toutes seules. Et après, si je modifie la fréquence, hop, ça va changer évidemment les vibrations. Alors, je vais mettre un peu plus fort.
Comment vous avez eu l'idée de faire ça?
C'est-à-dire que Maud, déjà, elle avait joué avec d'autres personnes qui jouaient surtout avec une guitare et une basse. Et donc, c'était pendant son travail à l'école des Beaux-Arts. Donc, ça faisait partie des travaux qu'elle avait fait pour passer son diplôme de cinquième année. Donc, elle avait déjà... c'est toi. Vas-y, dis-le.
J'ai fait une performance pour mon diplôme. Enfin, j'avais une pièce avec d'autres pièces artistiques à moi, et à la fin, j'ai présenté un concert avec un autre musicien qui était à la basse et à la guitare et qui envoyait une note en fait qui se propageait dans toute la salle. Mais en fait, l'image et le son n'étaient pas encore vraiment connectés. On jouait ensemble, mais on n'était pas. Ce que je faisais moi ne l'embêtait pas spécialement, on va dire. Il n'y avait pas encore de lien direct, etc. Et donc petit à petit avec Nicolas, et bah, lui par contre il bidouille pas mal sur certains logiciels en plus, et le synthé modulaire c'est un instrument qui fait encore autre chose. Et donc petit à petit on a développé ce concert.
Et comment vous avez découvert tout ça? Enfin, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Le concert et le microscope?
Tout ça, ça vient de... Parce que tous les deux, on vient de l'école des Beaux-Arts. Et donc, ce qui se passe dans une école d'art, c'est qu'on ne fait que ça tout le temps. D'expérimenter des choses avec des images, avec du son, avec de la vidéo, avec du volume, avec toutes sortes de choses pour créer des formes. Et puis voilà, à force de bricoler, tout d'un coup, on tombe sur des... choses qui nous intéressent, et puis on essaye d'aller un peu plus loin. Donc on dit, tiens, quand on fait ça, ça fait ça, bah tiens, on va essayer de faire comme ça, hein, petit à petit, et puis c'est comme ça que ça devient
Oui, moi c'était pendant un atelier avec un professeur où j'avais des microscopes, voilà, on faisait que du bidouillage, faut imaginer, c'est une semaine où on fait tous un peu des tests, des fois ça rate, des fois on trouve ça super, et puis 10 minutes après on trouve ça nul, enfin bon, c'est la semaine entière qui est comme ça. Et puis à force de parler en fait avec un autre étudiant qui lui était paumé parce qu'il était ultra, il était musicien, il parlait que musique et moi je parlais que images, et en fait à force de parler tous les deux on s'est dit en fait faut qu'on fasse un truc tous les deux, on teste, et puis c'est comme ça que c'est venu. J'ai passé le diplôme et puis petit à petit Nicolas et moi pareil à force de papoter, puis lui à la base voilà musicien etc, il a déjà fait pas mal de groupes dans sa vie, il a plus d'expérience sur la scène on va dire que moi, et donc force d'échange on s'est dit c'est parti quoi.